De participer à ces questions sur les frontières qui sont pour moi une question qui me tarabuste, si je peux dire, depuis un certain nombre d'années. Vous l'avez vu par mes centres d'intérêt, mes publications, je crois que je ne l'ai jamais dit, mais c'est à mes parents que je dois cette attirance pour les romans populaires. Il y avait, quand j'étais tout petit, des ouvrages qui m'attiraient dans la bibliothèque de mes parents que j'ai découvert, et puis je me suis passionné pour ces romans de Gensu, Alexandre Dumas, Jules Verne, que j'ai découvert, redécouvert par la suite dans des éditions plus anciennes. Et puis, arrivé à Paris 3, comme enseignant, j'ai pu concilier ce goût personnel pour une littérature qui est parfois un peu marginalisée, même beaucoup, et puis le goût de la littérature, des grands classiques, et surtout ceux du 19e siècle. Tout à l'heure, on parlait de Stendhal, Flaubert m'a passionné, et Zola, que j'ai découvert grâce à un certain nombre de spécialistes qui interviennent régulièrement ici. Alors, je vais parler aujourd'hui de ce roman un peu particulier que sont Les Mystères de Marseille, puisque c'est un roman de jeunesse de Zola, mais jeunesse, je dirais, qui commence à passer dans l'âge adulte. Il est précisément, il me semble, à la frontière entre un Zola qui se cherche dans les années 1860 et un Zola qui va se trouver bientôt, quelques mois peut-être après la publication de ce roman. Alors, je vais vous faire passer un petit document. J'espère que j'en ai fait suffisamment, une cinquantaine, ça devrait aller. Donc ce document, vous le verrez, ce ne sont pas du tout des extraits du roman lui-même, puisque j'espère que très prochainement donc les classiques Garnier vont pouvoir le mettre à notre disposition, mais plutôt des textes en rapport avec l'écriture de ce roman. D'une part, des lettres de Zola, lettres privées, comme celles qu'il envoie à son ami Valabrègue, des lettres rendues publiques, publiées dans la presse au moment de l'annonce de ces Mystères de Marseille, qui vont donc paraître en roman feuilleton, et puis préface également que Zola va rédiger pour une réédition de ce roman en 1884. Donc Les Mystères de Marseille, je le disais, occupent, je pense, une place assez particulière dans l'œuvre de Zola. Ce n'est pas un des grands romans du cycle des Rougon-Macquart, hein, vous le savez. Il précède ce cycle, mais le précède tout juste, puisqu'il est publié en 1867. Et 1867, ce sont, je crois, les premières notes que Zola va poser en vue de son grand projet d'une saga familiale. Et ce roman est souvent aussi mis un peu à part, même parmi les œuvres de jeunesse de Zola, puisqu'il est parfois considéré comme un travail alimentaire que l'auteur aurait accepté donc uniquement pour des raisons financières, et qu'il faudrait peut-être même exclure ces Mystères de Marseille des œuvres complètes de Zola. Or, je crois, en regardant de près, que ce serait une erreur. Ces Mystères de Marseille font bien partie de l'œuvre de Zola, et même, nous verrons d'une certaine façon, contribuent. C'est une étape dans son avancée vers le roman naturaliste. Alors peut-être un petit résumé pour que certains exemples que je prendrai tout à l'heure soient bien clairs. Donc l'action des Mystères de Marseille se déroule essentiellement entre 1843 et 1849, avec un épilogue qui se situe 10 ans après. Donc nous sommes juste avant la révolution de 1848, sous la monarchie de Juillet, et avec un épisode qui se produit pendant la Révolution de 48. La trame essentielle, ce sont les amours malheureux de Philippe Cayolle, qui est un jeune républicain, mais pauvre, et qui a néanmoins de l'ambition. Il veut faire de la politique, et il est tombé amoureux de Blanche de Casalis, qui est la nièce d'un député de Marseille. Et M. de Casalis, lui, est un homme tout puissant qui, bien sûr, n'acceptera pas d'accorder la main de sa nièce à ce républicain pauvre et sans envergure. Donc Philippe décide d'enlever Blanche. Tous deux se sauvent, mais ils sont très vite retrouvés. Philippe est emprisonné, et Blanche va être séquestrée chez son oncle. Philippe va passer en jugement et être condamné à 5 ans de prison et à l'exposition publique, le pilori, que l'on pratiquait encore à l'époque. Donc intervient à ce moment-là le frère de Philippe, qui s'appelle Marius, et qui est en fait, le narrateur va nous le dire dès le deuxième chapitre, le héros de ce roman. Marius va tout faire pour éviter à son frère Philippe au moins l'exposition au pilori, et puis si possible même le faire évader de prison. Il va donc chercher de l'aide, et là dans toute la deuxième partie du roman, ce sera les découvertes de Marius dans les bas-fonds de Marseille. Il va découvrir tout un peuple, tout un monde qu'il ignorait, un monde où règne beaucoup de malversations financières, d'escroqueries. Il est secondé dans ses recherches par une jeune bouquetière, une jeune fille qui vend donc des fleurs, qui s'appelle Joséphine, qu'on appelle Fine. Et tous deux vont finalement réussir à faire évader Philippe, qui va se cacher en Italie. Pendant ce temps, Blanche a eu un enfant de Philippe, qui va être recueilli également par les deux personnages que sont Fine et Marius. Troisième partie, nous sommes cette fois sous la Révolution de 1848. Philippe quitte l'Italie, revient à Marseille. Il veut s'engager dans ce grand mouvement révolutionnaire en tant que républicain. Et Casalis va, lui, en profiter pour essayer d'enlever l'enfant qu'il sait être élevé par Marius et Joséphine. Et son but est bien sûr de rester le seul héritier de la fortune de sa nièce, hein, puisque l'intérêt de Casalis, élevant Blanche, c'est d'être le tuteur et surtout le gestionnaire de la fortune de Blanche. Après cet épisode de la Révolution, nous arrivons en 1849, la fin du roman, qui se termine tragiquement. Une épidémie de choléra se répand à Marseille, va toucher un certain nombre des personnages, et Philippe va provoquer Casalis en duel. Mais c'est Philippe qui va être mortellement blessé. Il va expirer dans les bras de Blanche, qui est devenue religieuse et qui travaille à l'hôpital de Marseille. Et Blanche va voir aussi arriver son oncle, frappé par le choléra, qui meurt lui aussi. Donc nous avons un roman riche en intrigues, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et encore, je ne suis pas entré dans le détail de toute une série de personnages secondaires qui apparaissent dans ce récit. Il est intéressant de voir comment ce roman va être qualifié à l'époque, en 1867. D'une part, l'éditeur, le directeur du journal dans lequel paraît le roman feuilleton, et Zola reprendra cette formule, va le présenter comme un roman historique contemporain. Alors déjà, c'est intéressant de voir cette association d'historique et de contemporain. Et nous verrons qu'effectivement, c'est un roman qui renvoie à l'actualité et s'appuie sur des matériaux empruntés à la réalité. C'est aussi, ce sera un deuxième point, un roman feuilleton, et Zola lui-même le qualifiera de « à la Ponson du Terrail », donc à la manière de l'auteur de Rocambole. Et puis le troisième point intéressant, il me semble, de ce roman, c'est aussi ce qui est sur les derniers mots de la première partie, les plaies d'une grande ville livrées à tous les emportements de l'industrie moderne. Donc l'intention de décrire la vie d'une grande cité moderne et de tous les emportements que l'on peut y constater. Avant d'aborder ces trois points, je voudrais rapidement peut-être rappeler quelle est la situation de Zola dans ces années 1860. Donc avant d'en arriver à l'écriture de ce roman, nous savons que ce sont des années qui sont riches en changements pour Zola, à défaut de l'être de manière pécuniaire. Il travaille chez Hachette, il écrit, il se tourne vers la presse, et donc beaucoup d'activités apparaissent dans ses préoccupations. Il se met en relation en particulier avec le Moïse Milhaud qui lance le Petit Journal en 1865, donc une publication populaire qui, destinée à un large public, va mettre en avant des faits divers, mais aussi publier des romans feuilletons. Et parallèlement au Petit Journal, où Zola va publier des chroniques, mais aussi d'autres écrits, il va entrer comme collaborateur au Salut Public, qui est un grand quotidien à Lyon. Et là, des comptes rendus littéraires vont lui permettre enfin manifester ses goûts, certains articles prenant parfois l'allure de quasiment de manifeste. Il y a une lettre que Zola va adresser à son ami Anthony Valabrègue, et c'est celle qui apparaît dans le document, en premier exemple, le texte numéro 1, qui est donc une lettre du 6 février 1865, où, je suis en train de regarder pour avoir le document sous les yeux, voilà. Zola va donc écrire à son ami Valabrègue. Alors, Anthony Valabrègue, lui, choisit une voie un peu différente de celle de Zola. C'est un jeune homme qui a choisi la voie de la poésie, donc une voie plus difficile. Et Zola va assez fréquemment, dans sa correspondance avec son ami, justifier pourquoi il s'engage ainsi dans la publication, dans la grande presse, ce qui, sans doute, aux yeux d'Anthony Valabrègue, est assez... méprisable. Et donc Zola va lui dire « Vous comprenez que je n'écris pas toute cette prose pour les beaux yeux du public. On me paye l'article 20 francs au petit journal et 50 à 60 francs au salut public, de sorte que je me fais environ 200 francs par mois avec ma plume. » Donc bon, on pourrait faire le calcul hein, si on voulait, mais c'est déjà un petit revenu que Zola s'assure ainsi. Et il insiste bien sur le fait que c'est pour lui important. La question argent m'a un peu décidé dans tout ceci, mais je considère aussi le journalisme comme un levier si puissant que je ne suis pas fâché du tout de pouvoir me produire à jour fixe devant un nombre considérable de lecteurs. Donc on voit que Zola est également conscient de l'importance de la presse, de son pouvoir, du moyen de toucher un large public. Et comme il le dit ainsi... elle donne à ses rédacteurs une popularité bien rapide. Donc il cherche aussi cette popularité que connaissent les auteurs de l'époque, Ponson du Terrail, Eugène Sue ou Alexandre Dumas. À partir de 1865, Zola va connaître une nouvelle collaboration, où en particulier le Courrier du Monde littéraire, où il va publier une chronique, Les confidences d'une curieuse. Il va chercher à publier un roman dans le journal, le quotidien La Patrie, La confession de Claude. Et puis finalement, ce roman ne sera pas accepté. Il va paraître directement en volume chez La Croix. Et à ce moment-là, Zola répond encore à son ami Anthony Valabrègue, qui se réjouit que son ami ait enfin publié un premier livre. Il lui dit « Vous me demandez ce que mon livre m'a rapporté, peu de choses. Un livre ne nourrit jamais son auteur. » Et il insiste à nouveau sur le fait que c'est pour lui la presse qui est le média le plus important. « On a le feuilleton. Toute œuvre pour nourrir son auteur doit d'abord passer dans un journal qui la paie à raison de 15 à 20 centimes la ligne. » Et ensuite, on a le libraire. Il insiste bien, encore une fois, sur l'importance de la presse pour, à ses yeux, non seulement pour des questions financières, mais aussi pour toucher un large public, ce qui est l'ambition de Zola, de devenir un écrivain connu. Une concurrence au petit journal va être lancée avec le Figaro. Le directeur du Figaro lance un journal qui s'appelle L'Événement en novembre 1865. Et dès 1866, Zola va y tenir une chronique littéraire, les livres d'aujourd'hui et de demain, une formule originale où il va proposer de présenter les œuvres qui paraissent en donnant des extraits. Il profite aussi, Zola, donc de cette rencontre avec Villemessant, qui est donc le responsable de L'Événement, qui est aussi par ailleurs le directeur du Figaro, pour se rapprocher du Figaro et publier des causeries, des nouvelles. On voit que Zola, dans cette période de 65-66, cherche à publier dans le maximum de publications parisiennes ou de province, parfois. Novembre 1866, L'Événement cesse de paraître. Et à la fin de l'année, la collaboration au Salut public, donc le quotidien de Lyon, s'arrête également. Et là, on voit Zola, en décembre 1866, qui se pose des questions en disant qu'il s'inquiète un peu. Il n'a plus que le Figaro, mais il a l'impression... Alors le Figaro, à l'époque, est un hebdomadaire, hein, pas un quotidien comme aujourd'hui. Il sent que cette publication risque aussi de s'arrêter, donc... une lettre à Valabrègue où il dit « Je ne sais guère comment je vais sortir de cette galère ». Et c'est alors que, fin 66, deux projets romanesques vont relancer l'intérêt de Zola et son activité littéraire. D'une part, comme vous le savez, il a publié un conte qui s'appelle « Un mariage d'amour » dont il va reprendre l'intrigue pour en faire un grand roman, « Thérèse Raquin ». Et alors qu'il se lance dans la rédaction de ce projet, il reçoit une visite, celle de Léopold Arnault, qui est le directeur d'un journal de Marseille, qui s'appelle le Messager de Provence. Et ce responsable du journal va lui faire une proposition. Et là, cette fois, vous pouvez vous reporter au document à la dernière page, le texte 8, qui est la préface que Zola écrira quasiment 20 ans plus tard pour la réédition de son roman en 1884, et où il raconte comment il y a eu cette proposition. C'était en 1867, au temps difficile de mes débuts, il n'y avait pas chez moi le pain tous les jours. Or, dans un de ces moments de misère noire, le directeur d'une petite feuille marseillaise, le Messager de Provence, était venu me proposer une affaire, une idée à lui, sur laquelle il comptait pour lancer son journal. Entre parenthèses, il ne s'agit pas de lancer le journal. Le Messager de Provence existe déjà depuis plusieurs années. Il paraît depuis 1861, mais peut-être que Arnault veut toucher un nouveau public en publiant un roman feuilleton désormais dans son billet hebdomadaire. Il s'agissait, donc reprend Zola dans sa préface, il s'agissait d'écrire sous ce titre « Les mystères de Marseille », un roman dont il devait fournir les éléments historiques, en fouillant lui-même les greffes des tribunaux de Marseille et d'Aix, afin d'y copier les pièces des grandes affaires locales qui avaient passionné ces villes depuis 50 ans. Cette idée de journaliste n'était pas plus sotte qu'une autre, et le malheur a été sans doute qu'il ne fût pas tombé sur un fabricant de feuilletons ayant le don des vastes machines romanesques. Bon, Zola, ici, se présente en personnage qui ne pratique pas précisément l'écriture des grands feuilletons comme celle de Ponson du Terrail ou de Dumas, comme je vais y revenir. Le projet est donc lancé et Zola va écrire en parallèle ses deux romans. D'une part, Thérèse Raquin, qui est destinée également à paraître dans la presse et dont il espère un grand succès. Et puis, cette autre commande qu'est Les Mystères de Marseille. C'est donc un premier aspect que je vais aborder maintenant, un roman historique contemporain, puisque nous verrons que cette formule, elle va être utilisée par Léopold Arnault et reprise par Zola. Arnault fournit, donc d'après l'information que nous donne Zola dans la préface, des documents judiciaires que Zola va pouvoir utiliser pour écrire son roman. Et il continue effectivement dans la préface en disant « Dès que j'eus les documents, un nombre considérable d'énormes dossiers, je me mis à la besogne en me contentant de prendre pour intrigue principale un des procès les plus retentissants et en m'efforçant de grouper et de rattacher les autres autour de celui-là dans une histoire unique. » Donc, malheureusement, toutes les notes, le manuscrit, tout ce qui pourrait ressembler à un dossier préparatoire, une ébauche, etc., des Mystères de Marseille, a disparu. En tout cas, il a peut-être existé, il a certainement existé, mais n'a pas été conservé. Ce qui est dommage, mais les lettres de Zola permettent de suivre un peu l'écriture de ce roman, et en particulier le rôle d'un ami qui s'appelle Marius Roux, qui est un ami d'enfance de Zola, qu'il a connu à Aix, et qui lui aussi apporte, semble-t-il, de la documentation, puisqu'il y a une lettre du 16 mars 1866 que Zola lui écrit en disant « Merci mille fois, mon cher Roux, tes notes sont excellentes et vont me servir merveilleusement. Il y a là matière à quelques bons chapitres. » Donc on peut penser que Marius Roux étant sur place, il a pu aller peut-être dans les archives ou simplement à la bibliothèque de Marseille, relire la presse de quelques années auparavant et retrouver des éléments qui vont alimenter l'écriture de ce récit. Alors suivons l'élaboration telle qu'elle peut apparaître à travers en particulier des documents qui paraissent dans le Messager de Marseille, il y a le texte numéro 3 qui est une présentation que Léopold Arnault va introduire en... Alors, il faut préciser que dans le Messager de Provence, hein, dès le début du mois de janvier 1867, il y a toute une série d'annonces. C'est un véritable événement médiatique qui est présenté dans le journal marseillais. Léopold Arnault s'entend visiblement bien sur la publicité et il va essayer d'entretenir un certain mystère autour de ce roman, précisément des Mystères de Marseille, en laissant entendre, vous le voyez, donc le document numéro 3, hein, ce titre gros de promesses et d'orages vient à peine de paraître en tête de nos colonnes, et déjà des lettres, demandes et réclamations encombrent nos bureaux, les unes sympathiques, les autres sombres et menaçantes. Le public a compris qu'il ne s'agissait pas d'une publication banale, mais d'une œuvre sérieuse, morale, nécessaire. Et donc, Arnault va laisser sous-entendre que bientôt le Messager de Provence va publier des révélations sur des affaires qui ont eu lieu et que des gens, peut-être, alors ces lettres reçues au journal, je ne sais pas si elles ont vraiment existé ou bien c'est un argument publicitaire, mais il semble laisser entendre que des gens ont peur d'être ainsi dénoncés dans le futur roman à paraître. Zola, semble-t-il, va être un peu gêné par cette manière de présenter son roman, puisque, vous voyez le document 5, cette fois, où il va, donc à la troisième page, où il va essayer de faire une mise au point le 27 février 1867, une lettre qui est publiée le 2 mars. Où il va insister sur le fait, bon, vous avez donné le titre des Mystères de Marseille, vous l'avez qualifié de roman historique contemporain, ce titre leur convient à merveille. Seulement, à la dernière minute, il me vient un scrupule, donc une crainte d'un malentendu. Je crains que les lecteurs ne se trompent sur le caractère d'une œuvre ainsi annoncée. Et il revient donc sur ce qui est pour lui ce récit. Les Mystères de Marseille sont un roman historique contemporain, en ce sens que j'ai pris dans la vie réelle tous les faits qu'ils contiennent. J'ai choisi ça et là les documents nécessaires et j'ai rassemblé en une seule histoire 20 histoires de sources et de natures différentes. J'ai donné à un personnage les traits de plusieurs individus qu'il m'a été permis de connaître et d'étudier. C'est ainsi que j'ai pu écrire un ouvrage où tout est vrai, où tout a été observé sur nature, mais je n'ai jamais eu la pensée de suivre l'histoire pas à pas. Je suis romancier avant tout. Et je n'accepte pas la grave responsabilité de l'historien qui ne peut déranger un fait ni changer un caractère sans encourir le terrible reproche de calomniateur. Donc ce ne sera pas un roman historique sur une réalité, hein, ce sera bien un roman contemporain à partir d'affaires réelles. Zola va reprendre plusieurs affaires judiciaires, mais on voit aussi qu'en parallèle, il tient... mettre la chose au point avec son ami Anthony Valabrègue, qui lui, lisant peut-être le Messager de Provence, s'inquiète un peu de la voie qui est en train de suivre son ami. Et donc, si nous revenons au texte numéro 2, vous voyez que le 19 février 1867, le roman commence tout juste à apparaître dans le Messager de Provence. Zola va s'expliquer en disant « Je compte, c'est à la fin du passage, ce travail est peu payé, mais je compte sur un grand retentissement dans tout le Midi. Il n'est pas mauvais d'avoir une contrée à soi. D'ailleurs, j'ai accepté les propositions qui m'ont été faites, poussé toujours par cet esprit de travail et de lutte dont je vous parle plus haut. J'aime les difficultés, les impossibilités, j'aime surtout la vie, et je crois que la production, quelle qu'elle soit, est toujours préférable au repos. Ce sont ces pensées qui me font accepter toutes les luttes qu'on m'offrira. Lutte avec moi-même, lutte avec le public. On voit ce vocabulaire du combat que Zola reprendra à différentes reprises dans son existence. Et ses lettres avec Valabrègue montrent qu'il y a une discussion sous-jacente, Valabrègue étant plutôt du côté d'une conception élitiste de la littérature, écrire de la poésie pour un public peu étendu, alors que Zola, visiblement, lui, cherche un grand succès, un succès populaire, si on peut employer le mot. Donc revenons sur ces affaires que Zola utilise. Il y a effectivement l'une d'entre elles qui est déjà relativement ancienne quand on est dans les années 1866-67, qui date de 1823, donc une quarantaine d'années auparavant. Et c'est celle dont Zola parle, qui lui fournit l'intrigue principale du roman. Et effectivement, on y retrouve une certaine ressemblance avec ce que Zola va écrire dans Les Mystères de Marseille. Il s'agit donc d'un député de Marseille qui s'appelle Roux. Alors c'est un hasard, hein, c'est le même nom que l'ami de Zola, mais rien à voir. Donc Monsieur Roux, qui est un député de Marseille, est un homme riche et influent. Sa fille Françoise est enlevée par un jeune homme sans grande fortune qui s'appelle Danian. Elle a 16 ans, le jeune homme en a 33, et ils se sont rencontrés à Marseille, dans le quartier Saint-Joseph. Les deux amants s'enfuient, sont retrouvés par la police. Danian est arrêté, passe devant le tribunal, et il est condamné à 5 ans de prison, exposition publique, donc la même peine que Philippe dans le roman. Mais aidé par des proches, Danian va pouvoir s'échapper et échapper ainsi au pilori. Donc on voit bien que cette affaire va fournir à Zola la trame principale du roman, l'enlèvement initial, les conséquences judiciaires et puis l'évasion du coupable. Et puis il y a une autre affaire dont on retrouve assez précisément la trace, et là je m'appuie donc sur un travail qui a été réalisé il y a déjà quelques années sur les sources des Mystères de Paris par Raoul Busquet. Ça a été publié dans la Provence historique en 1953. Cette affaire, c'est celle lorsque Marius va découvrir un notaire qui se livre à des faux de manière très importante, toute une série d'escroqueries sur des ventes d'immeubles à des personnes fictives. Et c'est une affaire donc, dont Zola a pu trouver un fondement réel. Un notaire de Marseille, effectivement, en 1841, a ainsi, pendant à peu près 7 ans, fait des escroqueries que personne n'avait découvertes jusqu'à ce qu'il soit un peu plus imprudent en 1839 et que tout soit découvert. Et à ce moment-là, on a trouvé dans son office de notaire plus de 900 actes faux, des escroqueries de tout niveau. Cet homme a été condamné aux travaux forcés et à la peine d'exposition publique au pilori sur la place royale de Marseille, comme le sera le personnage dont Zola va s'inspirer, qui s'appelle Douglas dans le roman, qui sera lui aussi exposé en place publique. Zola s'inspire aussi vraisemblablement, mais là je pense que c'est Marius Roux qui a été voir dans la presse les journaux de 1848 pour dépeindre toute la révolte du peuple marseillais au moment des journées de 1848, notant des épisodes, des petits détails que Zola va placer dans son roman. Alors j'en reviens à la publication du roman lui-même, donc dans Le Messager de Provence. Je disais tout à l'heure qu'il est annoncé avec ce renfort de publicité, mais qui peut créer un certain malentendu. Et Zola, donc gêné, va insister pour qu'il n'y ait pas, pour dissiper ce malentendu. Il va revenir à deux reprises dans des lettres publiées dans Le Messager de Provence sur le fait que son roman ne va pas divulguer des secrets, ne va pas mettre en cause des personnes réelles, mais bien qu'il s'agit, comme vous pouvez le voir dans l'exemple numéro 5, donc j'ai déjà un petit peu cité tout à l'heure, mais cette fois à la fin, « Je me suis servi à ma guise d'événements réels qui sont, pour ainsi dire, tombés dans le domaine public, libre au lecteur de remonter aux documents que j'ai mis en œuvre. Quant à moi, je déclare à l'avance que mes personnages ne sont pas les portraits de telle ou telle personne. Ces personnages sont des types et non des individus. De même pour les faits, j'ai donné à des faits réels des conséquences qui n'ont peut-être pas eu dans la réalité, de sorte que l'œuvre qu'on va lire, écrite à l'aide de plusieurs histoires vraies, est devenue une œuvre d'imagination historique dans ses épisodes, inventé à plaisir dans son ensemble. Et Zola va devoir revenir quelques jours plus tard dans une autre lettre qui sera publiée le 11 avril 1867, donc alors que le roman est déjà publié depuis plusieurs semaines dans le récit, en disant « On me prévient qu'il circule à Marseille de prétendues clés relatives au roman que je publie dans le Messager de Provence. Certains esprits ingénieux se seraient mis à la torture et affirmeraient avoir trouvé des visages sous les masques. Mes personnages, Monsieur de Casalis, Philippe Caillol, l'abbé Donadei ne serait autre que telle et telle personne que l'on nomme tout haut. » Et donc Zola revient sur cette idée. « Je dois déclarer de nouveau que je n'ai entendu faire aucun portrait et je donne le démenti le plus formel à ceux qui me prêtent la pensée d'avoir voulu peindre certains visages connus. J'ai déjà expliqué la méthode que j'avais employée pour écrire le roman, prenant des traits ça et là, mettant en scène des types et non des individus, ployant la réalité au gré de mes caprices de romancier. » C'est, bien entendu, un roman feuilleton que Zola va ainsi publier, alors non pas au jour le jour, puisque le Messager de Provence paraît deux fois par semaine, mais avec une grande régularité de janvier 1867 jusqu'au début de l'année 1868. Et plusieurs parrainages vont être ici invoqués à propos de ce roman feuilleton. Le premier d'entre eux, ce sera le parrainage de Ponson du Terrail. Et cette fois, je reviens donc sur la longue présentation que j'ai reproduite, le document numéro 4, qui est celle de Léopold Arnault, en février 1867, juste au moment où le roman commence à être publié dans le journal. Et donc Léopold Arnault, là, va interpeller ses lecteurs en disant « Vous aimez les émotions, vous voulez des scènes ardentes, des drames brûlants, etc. » Et un peu plus loin, « Vous avez dévoré en conséquence tout ce que l'imagination échevelée et enfiévrée de nos feuilletonistes modernes vous a servi de plus fantastique, de plus bizarre, de plus horrible. Vous avez lu avec une frénétique curiosité les mystères de Londres, les mystères de Paris, voire même les mystères du diable, etc. » Et jusqu'à cette résurrection de Rocambole, où les plus incroyables fictions ont captivé, séduit et ébahi les esprits les moins crédules. Et puis, Léopold Arnault ne peut pas s'empêcher de revenir à son idée première. Hein. Mais si le faux vous plaît et vous passionne ainsi, que sera-ce du vrai? Et lui, il va toujours insister sur le fait que ce sont des histoires réelles qui sont raconté dans ces mystères de Marseille. Ce qui m'a intéressé ici, c'est de voir que Léopold Arnault fait référence à la résurrection de Rocambole, qui vient effectivement d'être publiée dans le Petit Journal en 1867. Et ce parrainage invoqué par l'éditeur Léopold Arnault va être curieusement repris par Zola lui-même quelques mois plus tard, lorsque, ayant terminé la publication du Mystère de Marseille dans le Messager de Paris, il va essayer de le proposer à un journal parisien. Et il va se tourner vers l'événement illustré en disant à son responsable, Édouard Bauer, donc c'est une lettre du 10 octobre 1868, bon, je ne l'ai pas reproduite, hein, mais j'en prends quelques mots. C'est une histoire romanesque, un récit d'aventure dans lequel j'ai essayé de mettre le plus de faits possible. Certes, je n'ai pas la pensée ambitieuse d'avoir égalé Ponson du Terrail, mais j'espère être parvenu à donner quelques mouvements à ce roman d'intrigue. Donc on voit que Zola lui-même se compare en quelque sorte ou se place sous le parrainage de Ponson du Terrail. Et c'est assez étonnant de le voir ainsi invoquer ce feuilletoniste sur lequel il a écrit par ailleurs avec une certaine ambiguïté. J'avais déjà souligné dans une publication ancienne maintenant dans le Rocambole, Zola est intéressé, fasciné par les romans de Ponson du Terrail. Il a lu Rocambole, en tout cas une partie, puisque c'est un immense feuilleton qui s'étale sur une dizaine d'années. Il a lu d'autres romans de Ponson du Terrail, dont Les Cosaques à Paris, dont il fait d'ailleurs un compte-rendu dans l'événement. Et on voit que Zola est fasciné par ces romans, comme il le dit lui-même, comme il serait fasciné par une machine qui fonctionne, par un mécanisme, un jeu d'une pompe. Et il dit, on prend à la lecture de ces histoires un plaisir purement mécanique. Alors, cette idée d'une mécanique, du mouvement, intrigue Zola. Mais par ailleurs, il rejette aussi cette débauche d'imagination qui sera pour lui le gros défaut que présentent la plupart des feuilletonistes. Mais Ponson du Terrail restera toujours pour lui quelqu'un pour lequel il éprouve un certain respect, ne serait-ce que pour avoir attiré autant de lecteurs pendant un grand nombre d'années. Il y a, vous le savez, dans Le Messager de l'Europe, où Zola va publier dans les années 1877-78 plusieurs articles sur les romanciers contemporains, il va encore distinguer Ponson du Terrail comme un feuilletoniste ayant hérité des procédés des maîtres et pour lequel il éprouve un certain respect. Mais, bien sûr, pour un roman qui s'appelle « Les mystères de Marseille », on va penser à un autre parrainage qui est d'ailleurs évoqué lui aussi par Léopold Arnault dans son texte du 14 février 1867, ce sont les Mystères de Paris, le roman d'Eugène Sue, publié en 1842 et qui a été un grand succès populaire, un des romans qui marque sans doute le début d'un âge d'or du roman populaire par à la fois le nombre de lecteurs qui vont se passionner pour les aventures de Rodolphe dans les bas-fonds parisiens, et aussi par un phénomène nouveau, une véritable attente du public qui chaque jour se presse pour lire le journal et le nouvel épisode qui va paraître. Et puis, pour la première fois aussi, une interaction, puisqu'un grand nombre de lecteurs vont écrire à l'auteur, lui faire part de leur passion, lui faire part aussi de remarques sur le roman, remarques dont Eugène Sue pourra parfois tenir compte. C'est la première fois qu'une interaction s'établit ainsi entre un romancier populaire et son public. Donc ces mystères de Paris vont entraîner un certain nombre d'autres mystères. D'ailleurs, Léopold Arnault en cite quelques-uns. Les mystères de Londres. Alors, il ne précise pas que c'est un roman qui a été écrit en fait par Paul Féval, qui est aussi un des grands romanciers, l'auteur du Bossu. Il y aura d'autres mystères, mystère du diable, mystère d'un forçat. On pourrait ajouter à sa liste des mystères du lapin blanc, les mystères de Bicêtre, les mystères du temple. Il y a eu toute une série dans les années qui ont suivi la publication des Mystères de Paris. Et on voit bien que les Mystères de Marseille s'inscrit dans cette suite, dans cet héritage. Le titre, peut-être d'ailleurs, ayant été proposé par Léopold Arnault, là-dessus, on ne sait pas qui a trouvé ce titre, qui d'ailleurs, finalement, convient assez peu à ce roman, puisque les Mystères de Marseille ne concernent que la deuxième partie dans laquelle Marius Roux va découvrir tous les dessous. Et c'est là que l'on retrouve une certaine parenté aussi avec le roman d'Eugène Sue. Donc dans les Mystères de Paris, le héros s'appelle Rodolphe. C'est un aristocrate qui se fait passer pour un ouvrier et pouvoir ainsi se mêler aux bas-fonds parisiens, rencontrer des différentes personnes, essayer de retrouver le fils d'une amie qui a disparu. Et il va prendre ainsi la défense d'une jeune fille, Marie, dont il apprendra à la fin du roman qu'elle est sa fille qui, elle aussi, a disparu. Mais surtout, le roman l'amène à rencontrer un certain nombre de malfaiteurs, un couple odieux qui est le maître d'école et la chouette, un ancien bagnard, un notaire malfaisant, des petits voleurs, des gens qui récupèrent les noyés, les ravageurs, que l'on retrouvera là plutôt dans Thérèse Raquin que dans Les Mystères de Marseille. Et donc, dans le roman de Zola également, Marius va ainsi plonger dans les bas-fonds de Marseille pour essayer de trouver de l'argent pour pouvoir sauver son frère et lui aussi rencontrer un notaire malhonnête comme le héros de Eugène Sue, rencontrer des différents malfaiteurs. Ce qui rapproche aussi ce roman, c'est que comme Rodolphe a des alliés, Marius lui aussi peut s'appuyer sur plusieurs personnes. Il y a fine, Joséphine, donc la bouquetière, la petite marchande de fleurs, qui tombe amoureuse de lui, Sauvert, un portefeuille qui va, dans la mesure de ses possibilités également, aider Marius, et puis le patron de Marius, son employeur, qui est Monsieur Martelli, un armateur, qui va lui aussi l'aider autant qu'il le pourra. Et puis un personnage assez curieux, un noble assez original, qui est plutôt un noble qui penche vers la République, qui s'appelle Monsieur de Girousse. Il y a aussi parmi les alliés de Marius un prêtre, l'abbé Chastanier, qui incarne le bon prêtre, charitable et humble, alors que Marius va rencontrer aussi dans les bas-fonds de Marseille d'autres prêtres plus ambitieux, séducteurs. L'un d'entre eux envisage même d'enlever une jeune fille. Dans les mystères de Paris, à la fin, la jeune Marie, dont Rodolphe va découvrir qu'elle est sa fille, va finalement décider à la fin du roman d'entrer dans un couvent. Et de même, donc, dans les mystères de Marseille, Blanche de Casalis décide d'entrer au couvent pour expier en quelque sorte la faute de son oncle Casalis. Et puis, j'étais frappé, j'en ai déjà, je crois, fait part lors d'un séminaire précédent dont je n'ai plus la date, aussi de ressemblance entre les mystères de Marseille et le comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas. Alors, on sait que Zola est aussi un grand lecteur d'Alexandre Dumas. Il a raconté dans une lettre une fois qu'il avait lu Les Trois Mousquetaires en deux nuits, donc ce qui veut dire qu'il a tout lu d'affilée sans quasiment s'endormir. Et donc le roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo, a été publié en 1844, donc un peu après les Mystères de Paris. C'est aussi une histoire de recherche, de vengeance, puisque un jeune marin qui s'appelle Edmond Dantès va être accusé injustement, envoyé en prison et s'échapper du château d'If, donc on est à Marseille aussi, où il est prisonnier, pour revenir se venger. Et il va retrouver ceux qui l'ont ainsi injustement accusé, en particulier un notaire qui s'appelle Danglars. Et on pourrait peut-être se dire que le Douglas des Mystères de Marseille est un écho de ce Danglars. De même qu'un armateur avec lequel Dantès va pouvoir, chez qui va pouvoir trouver un appui qui s'appelle Morel, ressemble ou annonce en quelque sorte l'armateur Martelli qui aide Marius dans sa tentative pour sauver son frère. Mais bon, ce sont quelques rapprochements qui peut-être manifestent qu'en écrivant ainsi assez rapidement les Mystères de Marseille, Zola se souvient de ses lectures des Mystères de Paris, du Comte de Monte Cristo en particulier, mais finalement assez peu de Ponson du Terrail, qui curieusement donc est mis en avant, alors qu'à mon avis c'est plutôt les Mystères de Paris de Gensu et le Comte de Monte Cristo de Dumas qui sont en sous-bassement à son roman feuilleton. Et alors j'aborderai maintenant le troisième point, qui est l'intention de Zola de peindre une ville livré à tous les emportements de l'industrie moderne. Ce sont, je le disais, les derniers mots de la première partie du roman qui introduisent l'odyssée de Marius dans les bas-fonds de Marseille, où il va découvrir effectivement un tableau de Marseille que Zola va brosser. La ville dans son ensemble, d'ailleurs, est assez bien représentée dans ce récit. En tout cas, la ville telle qu'elle se présente dans les années 1840-1850, avec le port, bien sûr, la Canebière, qui est la grande artère qui existe toujours. Mais les vieux quartiers autour du port, les rues, des places comme la place aux œufs, où vont se dérouler les grands combats en 1848, là, tout cela a été rasé et disparu aujourd'hui. Même la place royale où est installé le pilori, donc qui revient à plusieurs reprises dans ce roman, où on expose les condamnés, n'existe plus véritablement. Elle a été remplacée par une place beaucoup plus grande qui porte un autre nom, place du Général de Gaulle. Il y a aussi des environs de Marseille qui sont présents dans le roman, des petits villages qui sont proches dans le récit à l'époque, qui sont aujourd'hui devenus des quartiers de la ville. la campagne que traversent Blanche et Philippe au début du roman en se sauvant, et puis la mer Méditerranée aussi, qui est très présente, qui est un véritable personnage dans certains moments du récit. Elle est là, elle semble encourager les amours de Marius et de Fine, par exemple. Et puis, écrivant un roman qui se déroule en grande partie à Marseille, Zola place également quelques épisodes à Aix, en Provence, donc une ville qui lui est chère, puisqu'il y a passé une grande partie de sa jeunesse, et qui servira de modèle à Plassans. Et entre parenthèses, on voit qu'ici, dans les Mystères de Marseille, les villes sont bien présentées sous leur véritable nom. On est Aix-en-Provence, Marseille, etc. J'ai remarqué, par exemple, dans un épisode qui correspond à la fuite de Philippe et de Blanche au début du roman, lorsqu'ils cherchent à échapper aux gendarmes que Casalis a envoyés à leur poursuite. Ils vont se promener dans les environs d'Aix-en-Provence et tenter de trouver un refuge dans un petit bastidon, donc une petite construction qui sert aux bergers. Et ils vont ainsi se réfugier dans un bastidon près de Puy-Ricard, entre le village et le chemin de Venelle, donc une petite bastide faite de chaux et de pierres sèches. Le lendemain, ils passèrent la journée dans un trou du torrent desséché de la Touloubre, puis vers le soir, ils rejoignirent le chemin de Venelle, firent un détour pour éviter de passer dans Aix, et gagnèrent le Tolonnais. Et si on regarde précisément ces lieux qui sont effectivement tout près d'Aix-en-Provence, on voit que le Tolonnais dont il est question ici, ce sera dans la faute de l'abbé Mouret, le village qui s'appelle les Artaux, c'est-à-dire le village où précisément Serge Mouret est nommé prêtre. Donc des lieux que Zola connaît bien, certainement qu'il a, dans lesquels il s'est promené dans sa jeunesse, et où il situe ainsi à la fois un épisode des Mystères de Marseille et où il reviendra dans la faute de l'abbé Mouret. De même, un peu plus loin, les deux fuyards, donc dans les Mystères de Marseille, Blanche et Philippe, gravissent une colline et restèrent jusqu'à la nuit dans la gorge des Infernets. À cette époque, précise le narrateur, les précipices de Jaumegarde gardaient encore toute leur sinistre horreur. Le canal Zola n'avait point troué la montagne et les promeneurs ne s'aventuraient guère dans cet entonnoir funèbre. Donc, allusion à ce canal Zola, le grand projet du père de Zola qui a imaginé et a commencé à réaliser dans les années 1840 un canal pour amener l'eau à Aix-en-Provence. Donc c'est à Aix aussi qu'a lieu le procès de Philippe. Donc on voit que les Mystères de Marseille se déplacent aussi dans les environs et on ne reste pas uniquement à Marseille. Mais comme on le voit, l'intention de Zola, c'est bien de montrer aussi les turpitudes que Marius, son héros, va rencontrer dans les bas-fonds de cette ville. Comme on le trouvera parfois dans les romans des Rougon-Macquart, Zola va dénoncer ce monde des affaires louches, le monde des usuriers, des banquiers malhonnêtes, des femmes aussi qui profitent de leur charme pour séduire des hommes riches ou qui elles-mêmes sont des usurières parfois. Il y a ainsi un chapitre dans la deuxième partie qui s'appelle « Les tripots marseillais » où, avant d'entraîner son héros dans ces lieux où l'on joue de l'argent, il y a, et c'est assez rare dans ce roman, une intervention du narrateur qui dit « Avant de raconter le nouvel épisode de ce drame, avant de montrer Marius dans toutes les angoisses du jeu, il est nécessaire d'expliquer les causes qui ont multiplié les tripots dans Marseille. Celui qui écrit ces lignes voudrait pouvoir étaler dans toute sa nudité hideuse la plaie dévorante qui ronge une des villes les plus riches et les plus vivantes de la France. On lui pardonnera la courte digression qu'il va se permettre en songeant à l'utilité du but qu'il se propose. » Et là commence un développement sur comment la passion du jeu se développe dans les grands centres du commerce, comment c'est quasiment une nécessité qui naît du monde de la circulation de l'argent, et le jeu devient une spéculation qui s'ajoute aux autres. Une analyse assez intéressante là de la part de Zola, qui montre que dans une ville comme Marseille, où l'argent règne en souverain maître, où la population est secouée par une terrible fièvre commerciale, le jeu devient une nécessité, une sorte de banque ouverte à tous, dans laquelle chacun, le pauvre et le riche, peut risquer ses gros sous ou ses petites pièces d'or. Et donc Marius, qui est à la recherche d'argent pour pouvoir payer le geôlier qui retient son frère prisonnier, va tenter lui aussi de risquer un peu d'argent pour dans ces lieux de perdition. Cette folie de l'argent, donc, comme vous le savez, on va la retrouver assez fréquemment dans les Rougon-Macquart, hein, que ce soit dans la curée, dans l'argent, au bonheur des dames, etc. Et ce qui m'a frappé ici, c'est que le narrateur va utiliser une image qui est déjà quasiment une image de ses romans naturalistes. Et c'est en cela que, je le disais tout à l'heure, il est à la frontière véritablement de ce qui va devenir ce qui est pour moi la grande œuvre de Zola. Il va utiliser l'image du détraquement. Et c'est à propos de ce notaire dont j'ai déjà parlé, le notaire Douglas, que rencontre Marius et où il va constater que cet homme, ce notaire Douglas, qui lui paraît d'une grande intelligence, puisqu'il lui explique le système qu'il met en place pour gagner de l'argent avec un système qui lui paraît infaillible de rachat d'immeubles par des personnes fictives, et puis ça fonctionne très bien apparemment. Marius s'étonne d'entendre ce notaire lui expliquer ainsi, d'une manière aussi claire et naturelle, les escroqueries qu'il a commises, et il se dit un détraquement avait dû se produire dans cette intelligence. Cet homme était malade, la fièvre de spéculation qui le brûlait l'avait peu à peu amené à considérer le crime comme un moyen excellent. Et donc on voit que cette image du détraquement, elle explique une sorte de faille hein, dans l'intelligence du notaire. Et Marius, à son tour, va en être frappé lorsqu'il arrive dans ces lieux où il va risquer de l'argent, dans ces tripots marseillais, puisque le narrateur nous dit « Il s'était fait comme un détraquement dans son intelligence droite et saine. Sous les coups répétés du malheur, l'esprit de sagesse qui était en lui venait de se voiler. Il songeait au jeu comme à un moyen providentiel qui devait le tirer d'embarras ou le replonger plus profondément dans le néant de son désespoir. D'ailleurs, il agissait dans la fièvre, ne sachant plus ce qu'il faisait, obéissant aux instincts de la bête. » Et là aussi, on voit arriver cette image que l'on va retrouver, on le sait, de manière très forte dans des futurs romans de Zola, en particulier La bête humaine. Historiographe, journaliste, reporter, mais romancier avant tout, hein, je crois qu'on voit que Zola ici s'engage déjà sur la voie du romancier naturaliste qu'il va devenir quelques années plus tard, je dirais presque quelques mois, puisque c'est de 1867, il me semble, que date la première idée d'un ensemble de romans sur une famille où il va explorer les différents mondes. Et ces mondes, ils sont plus ou moins déjà présents ici, hein, le monde des prêtres, des filles faciles, des marginaux. Mais les mystères de Marseille ne s'inscrit pas, bien sûr, dans le grand projet de Zola. C'est, encore une fois, un roman avant tout destiné pour lui à se faire connaître. Des éléments plus précis, peut-être, sont intéressants à examiner de ce point de vue. Par exemple, l'épisode de la Révolution de 1848, ces grands mouvements de foule qui vont amener des personnages à se déplacer dans les rues de Marseille, pourrait nous faire penser à la fortune des Rougon que Zola va écrire très peu de temps plus tard. Il va commencer ce roman en 1869, où l'on voit déjà une ville traversée par l'émeute. Et dans la troisième partie des Mystères de Marseille, c'est bien ce qui est évoqué, une foule anonyme. Zola va d'ailleurs utiliser cette image de la foule comme un flot qui reviendra régulièrement. Hein. Vous vous souvenez sans doute que assez récemment, Chantal Pierre et Olivier Lombroso se sont intéressés à la foule dans un numéro des Cahiers naturalistes, et on la trouve déjà ici, cette foule comme un flot. Par exemple, dans le chapitre 14 de la troisième partie, où l'on voit arriver la colonne des ouvriers qui descendait vers la Canebière. Cette colonne, partie de la gare du chemin de fer, n'était alors composée que de quelques centaines de travailleurs, mais à mesure qu'elle s'avançait, elle recrutait tout le peuple qui se trouvait sur son passage, des hommes et des femmes. La population flottante des rues était entraînée par ce torrent de foule qui se précipitait des hauteurs de Marseille. Et un peu plus loin, on retrouve un bruit sourd, confus, semblable à la voix rude de la mer, courait dans les rangs de cette foule. D'ailleurs, elle avait un calme effrayant. Elle avançait sans pousser un cri, sans commettre aucun dégât, sombre et muette. Elle tombait, elle roulait, pour ainsi dire, sur Marseille. Elle semblait comme une avalanche fatale et implacable. Alors, je précise que je cite le texte de 1867, donc celui qui est paru en feuilleton dans Le Messager de Marseille. Petite parenthèse, Zola a revu son texte et a apporté un grand nombre de corrections pour l'édition de 1884 qui va paraître chez Charpentier. Mais là, je me situe dans la perspective d'un roman précédant les Rougon-Macquart. Donc ce flot humain, nous allons le retrouver plus loin. Et puis retrouver une scène aussi qui me fait penser cette fois plutôt à Germinal. Ce sont les ouvriers du premier rang qui se retrouvent poussés par les autres face aux soldats qui, eux, brandissent leurs baïonnettes. En les voyant approcher, un officier, perdant la tête, ordonna brusquement de croiser les baïonnettes, et les baïonnettes blanches et aiguës s'abaissèrent, se tournèrent vers le peuple. Au premier coup qui furent portés, les ouvriers eurent des cris de rage et de terreur. Cette foule qui était restée silencieuse devint folle en se voyant attaquée, sans avoir été avertie par aucune sommation légale. Elle n'avait que ses poings pour se protéger contre les fusils qui la menaçaient. Et là, on retrouve, vous y pensez certainement comme moi, l'affrontement des mineurs en grève avec les soldats, les pantalons rouges dans Germinal, avec ces baïonnettes qui sont là, et en particulier le personnage de Maheu qui écarte sa chemise, étalant sa poitrine nue. Il se poussait sur les pointes, il les obligeait à reculer, terrible d'insolence et de bravoure. Donc je crois qu'il est intéressant de repérer ainsi dans ce roman que certains pourraient considérer comme mineur, hein, comme très marginal par rapport à l'œuvre de Zola, en fait, des éléments qui annoncent déjà les grands romans futurs. Il y a aussi un autre exemple, on a encore un petit peu de temps, hein, je peux l'évoquer, c'est l'épisode d'une lorette qui s'appelle Armande et qui apparaît donc elle aussi dans la deuxième partie. Cette deuxième partie, donc, de plongée de Marius dans les bas-fonds de Marseille. Or, cette lorette, nous allons voir qu'elle ressemble déjà, elle annonce un peu le personnage de Nana. Donc, le chapitre 2 de la deuxième partie présente ce personnage. Armande avait une origine fort mystérieuse. Elle prétendait être née dans l'Inde, d'une femme indigène et d'un officier anglais. Elle partait de là et contait à qui voulait l'entendre un roman dont elle était l'héroïne. Elle mettait sa première faute sur le compte d'un riche protecteur qui l'avait prise chez lui à la mort de son père, etc. Et là, je pensais, bon, bien que les détails ne soient pas identiques, mais à ce que les amis de Nana se disent lorsqu'elle a disparu dans le dernier chapitre du roman, et où on affabule sur ce qu'elle a pu devenir. Certaines pensent qu'elle a fait la conquête du vice-roi des Turcs, qu'elle régnait au fond d'un palais sur 200 esclaves dont elle coupait les têtes pour rire un peu. Et puis quelqu'un d'autre jurait l'avoir rencontrée en Russie, une légende se formait, etc. Donc on voit bien que cette Armande, elle affabule comme Nana, et elle se comporte exactement contre elle, c'est-à-dire qu'elle tend ses pièges avec art, nous dit le narrateur. Elle va monter sa maison sur un grand pied, lui donna une sorte de cachet aristocratique. Il lui fut aisé de vaincre toutes ses rivales qu'elle trouva installées dans la ville, puisque ces pauvres filles déchues étaient d'une ignorance crasse. Elles s'habillaient mal, savaient à peine parler. alors que Armande est une fille élégante qui a un certain esprit, qui a une certaine culture et qui va donc devenir très vite la célébrité mondaine. Elle ouvrit son salon, elle attira les jeunes gens riches par le bruit qu'elle faisait faire autour d'elle et les retint par sa bonne grâce et la distinction de ses manières. Elle s'entoura de tous les viveurs de la ville. Elle n'admettait d'ailleurs que les gens riches, gagnant beaucoup et dépensant plus encore. Dans les commencements, elle n'eut qu'à choisir ses victimes. Une foule était à ses pieds. Elle croqua à belles dents plusieurs fortunes, vivant en plein luxe, fournissant aux besoins de son train qui était énorme. Et là, on retrouve bien un des comportements de Nana, avec aussi l'image de croquer les victimes, de les manger. Nana dévorait à chaque bouchée, Nana dévorait un arpent. Elle brûlait la terre où elle posait son petit pied. Elle croqua l'héritage de son air gentil. On retrouve cette image dans le comportement de Nana comme dans celui d'Armande. Et puis, comme Nana, Armande va connaître une chute assez terrible. Sans cause apparente, tout d'un coup, son crédit baissa. La gêne vint, fit des trous dans son luxe. Sans doute, sa mode était passée. Les amants généreux manquaient. Elle tomba dans les transes de cette demi-misère qui porte de la soie et marche sur des tapis, sentant qu'elle allait rouler dans le ruisseau. Si elle ne faisait pas des efforts pour garder son appartement de grande dame, elle lutta avec désespoir contre la mauvaise chance. Donc, la chute dans le ruisseau, hein, on la retrouve aussi dans Nana. Et Armande va, elle, s'endetter, être victime d'une femme usurière. Et puis nous la retrouverons à la fin du roman, lorsque, donc dans cet épisode final, quasiment tous les personnages se retrouvent à l'hôpital de Marseille en pleine épidémie de choléra. Marius va apercevoir Armande sur un lit mourante. Et une fin qui n'est pas là non plus sans nous rappeler celle de Nana qui meurt de la petite vérole à la fin du roman. Alors je vais passer sur un aspect qu'Alain Pagès connaît bien, c'est l'adaptation théâtrale de ce roman, puisque pendant même la publication du récit, on voit par les lettres que Marius Roux et Zola s'échangent qu'ils envisagent très vite d'en faire une adaptation théâtrale. C'est une pièce qui n'aura aucun succès, très peu de représentations, sans doute parce que les deux auteurs vont tailler dans le roman, ne retenir en fait que les épisodes de la deuxième partie. Supprimer les principaux protagonistes, c'est-à-dire que Casalis, Blanche, Philippe, Marius ne passent pas dans l'adaptation théâtrale, donc les principaux personnages, mais l'intrigue va se décentrer sur une courtisane qui s'appelle Clairon, qui apparaît dans le roman, mais qui n'a pas un rôle important, et puis un fils qui s'appelle Daniel, qui va devenir le personnage central de la pièce, remplaçant ainsi Marius. Mais cette adaptation théâtrale aura très peu de représentations, peu de succès, n'a jamais été éditée. Hein, et comme le souligne Alain Pagès, c'est intéressant de voir que Zola se tourne vers le théâtre, comme il le fera par la suite. Mais il saura peut-être s'associer avec des auteurs de théâtre un peu plus aguerris pour ses futures adaptations. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, Zola va avoir le souci de proposer les Mystères de Marseille à un journal parisien. Il le propose donc à l'événement illustré, nous l'avons vu, en faisant référence à Ponson du Terrain, et je le mentionnais tout à l'heure. Il vient d'ailleurs de publier en feuilleton en 1868 Madeleine Ferrat, sous un titre un peu différent, La Honte, et les Mystères de Marseille vont paraître dans l'événement illustré également, à partir du 23 octobre 1868, sous un titre différent. Bon, peut-être les changements de titre, c'est toujours assez compliqué dans le domaine des publications, dans la presse. On ne sait pas qui en est le responsable. Est-ce que c'est le responsable du journal ou l'auteur lui-même se disant « je vais proposer un titre différent pour ne pas avoir l'air de publier plusieurs fois le même texte ». Bon, toujours est-il que le roman s'intitule cette fois « La famille Caillol ». qui effectivement donc met l'accent sur à la fois sur Philippe et sur Marius. Mais le journal va cesser de paraître en janvier 69 et donc la publication cessera elle aussi. Quelques années plus tard, Zola, cette fois romancier qui commence à être connu, ayant publié plusieurs romans des Rougon-Macquart, va proposer son roman à un quotidien qui est Le Corsaire, avec lequel il a collaboré dans les années 1867. Et ce Corsaire va accueillir à la fois des articles de Zola et aussi donc le roman sous un nouveau titre, Un duel social. Mais cette fois, Zola ne va pas le signer de son nom. Il va prendre, vous le savez, le pseudonyme d'Agrippa. Je ne sais pas comment on peut interpréter ce pseudonyme. Mais... ce qui est intéressant, c'est de voir que ce roman va ainsi connaître deux tentatives de publication dans la presse nationale. Et puis, en 1879, donc une dizaine d'années après, un journal qui s'appelle La Lanterne va demander à Zola l'autorisation de rééditer ses Mystères de Marseille. Il semble que le responsable du journal, qui s'appelle Eugène Meyer, a entendu parler d'un roman de jeunesse de Zola et qui l'intrigue, Les Mystères de Marseille. Il contacte Zola, lui demande l'autorisation de publier ce roman. Et je crois que je n'ai pas repris le... si, voilà. Vous avez l'extrait en bas de la troisième page, l'extrait numéro 7, où Zola va donc autoriser Eugène Meyer, directeur de La Lanterne, à publier son roman. Et il est intéressant de voir comment il en parle avec des éléments qu'il reprendra dans la préface de 1884. Des gens se sont imaginés que j'avais à rougir de mes premiers travaux. Un critique avec une gravité bouffonne a raconté comment je retirais à prix d'or de la circulation les exemplaires de mes haines, un volume dont mon éditeur prépare justement une nouvelle édition. D'autres, je tiens le fait des libraires eux-mêmes, ont fouillé toute la Provence pour acheter très cher un exemplaire des Mystères de Marseille avec l'espoir de trouver là-dedans des documents qui me soient désagréables. Et ce roman a ensuite été donné comme un péché caché, comme une faute littéraire dont je voulais effacer à jamais la trace. Alors effectivement, on voit que Zola répond ici à une... Il est engagé dans ce qu'Alain Pagès va appeler la bataille littéraire, hein, pour essayer de répondre à différentes attaques qui lui viennent de différentes sources. Et l'une d'entre elles, c'est qu'il aurait commencé par des travaux, par des écrits dont il aurait honte, et en particulier, c'est le Mystère de Marseille, exemplaires introuvables même chez les bouquinistes de Provence, serait donc un péché de jeunesse, une faute cachée que Zola ne voudrait pas avouer. Et donc il va autoriser La Lanterne à publier son roman en disant, vous voyez en haut de la quatrième page, « Reproduisez-le donc, j'en serai très heureux. J'ai toujours écrit au grand jour, j'ai toujours dit à voix haute ce que je croyais devoir dire. » Et je n'ai aujourd'hui à retirer ni une œuvre, ni une opinion. Et ensuite, il va raconter ce que j'ai évoqué tout à l'heure et qu'il reprendra dans la préface de 1884, comment il a été amené à écrire ce roman sur la proposition de Léopold Arnault, qui est venu lui donner des documents judiciaires. Et puis, la dernière étape, c'est donc... Alors ici, je me lance dans des hypothèses. Peut-être que cette publication dans La Lanterne, des rumeurs, parce que on retrouve encore en 1882 un article qui laisse entendre que Zola aurait honte de ses débuts littéraires, qu'il cache ses premières œuvres, qu'il ne veut pas les présenter. Je me demande si, face à cette campagne de dénigrement, Zola n'a pas proposé à son éditeur Charpentier de rééditer Les Mystères de Marseille. Et on en arrive donc à cette édition de 1884, au moment où il est lancé dans différentes polémiques suite à... Alors, L'Assommoir, ça remonte déjà à quelques années, mais il y a eu Nana, Paubouille, et il va y avoir bientôt Germinal qui va déclenché là aussi des vives réactions. Donc peut-être Zola veut-il répondre d'une certaine façon en montrant quel a été véritablement, quels ont été ses débuts, comment il en est arrivé au roman naturaliste. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est de comparer le texte de 1884 à celui de 1867 et de constater là de profonds changements. Zola réécrit surtout la troisième partie de son roman. Dans le début, ce sont des petites modifications de style, je dirais. Il allège, lorsqu'il emploie parfois deux adjectifs, il en supprime un des deux. Il va supprimer surtout les allusions religieuses, c'est-à-dire que Blanche, Casalis, qui va entrer dans un couvent, est une jeune fille très croyante, mais les autres personnages ont aussi assez souvent un vocabulaire religieux à la bouche, et il va supprimer assez souvent ces éléments-là dans sa version de 1884. Il va également revoir des descriptions de la troisième partie, et là en particulier réécrire de très nombreux passages de ces mouvements de foule que j'ai cités. Des paragraphes entiers vont être supprimés, il va remplacer parfois un paragraphe par un autre, donc une véritable réécriture de toute la fin du roman. Et c'est un travail qui me paraît témoigner d'un attachement de Zola à ces mystères de Marseille, dont on voit bien que cette fois, dans sa préface de 1884, il va nous donner des éléments intéressants et qui vont me servir de conclusion. Puisque notre séminaire, donc je le disais tout à l'heure, porte cette année sur la notion de frontière, et qu'il me semble que les mystères de Marseille se situent à une frontière, ou à un tournant, si on veut, à une évolution de Zola, qui est en train de passer d'une recherche qu'il a amenée, donc, comme nous l'avons vu, dans différents journaux, publier des chroniques, des articles, des contes, essayer de publier des romans, etc., en romans feuilletons. Et cette fois, il va mener une œuvre importante, le Mystère de Marseille, on n'a plus en mémoire le nombre de signes, mais c'est un gros volume, c'est un ouvrage important, qu'il a mené jusqu'au bout. Et tout en affectant parfois de le mépriser ou de le considérer comme moins important que d'autres œuvres, et en particulier de Thérèse Raquin qu'il écrit en parallèle, il me semble que Zola, avec un recul de 20 ans, regarde son œuvre d'un autre œil et il trouve peut-être une cohérence par rapport à sa propre démarche. Bon, c'est ainsi que j'interprète quelques passages de cette préface. Vers le bas, donc le passage commence par un crochet. « Comme je relisais les épreuves ces jours-ci, j'ai été frappé du hasard qui, à un moment où je me cherchais encore, m'a fait écrire cette œuvre de pur métier et de mauvais métier sur tout un ensemble de documents exacts. Plus tard, pour mes œuvres littéraires, je n'ai pas suivi d'autres méthodes. » Donc, on voit qu'il a conscience qu'il met en place ici cette méthode qu'il va développer par la suite et rendre plus personnelle, la recherche de documents, les enquêtes sur place, etc., qui font partie de son originalité et dont il a conscience qu'ici, elle se met en place. C'est la méthode qu'il inaugure avec les mystères de Marseille. Et puis, encore un paragraphe plus loin. « On pense me chagriner beaucoup en exhumant des pages mauvaises du tas énorme de prose que pendant 10 ans j'ai dû écrire au jour le jour. Toute cette besogne de journaliste n'a pas grande valeur, je le sais, mais il me fallait gagner ma vie puisque je n'étais pas né à la littérature avec des rentes. » Donc là, petite pique pour certains qui se reconnaîtront ou peut-être pas. « Et si j'ai touché à tout, dans des heures bien pénibles, c'est là un labeur dont je n'ai pas de honte, et j'avoue même que j'en suis un peu fier. Les mystères de Marseille rentrent pour moi dans cette besogne courante à laquelle je me trouvais condamné. Pourquoi en rougirais-je ? » Bon, il précise, ils m'ont donné du pain à des moments les plus désespérés de mon existence. Malgré leur médiocrité irréparable, je leur en ai gardé une gratitude. Et puis, surtout, il y a cette dernière raison que Zola avance. Il est encore une raison que je dirais, si l'on me poussait un peu, je suis d'avis qu'un écrivain doit se donner tout entier au public, sans choisir lui-même parmi ses œuvres, car la plus faible est souvent la plus documentaire sur son talent. » Et donc là, je crois qu'il laisse entendre que peut-être ces mystères de Marseille, qu'il considère, bien sûr, avec un regard très sévère, hein, encore une fois, il qualifie souvent ce roman de médiocre, aussi bien à l'époque qu'avec le recul de 1884. Malgré tout, elle serait peut-être la plus documentaire, celle qui révèle son talent. Et on voit que ce roman écrit en 1867 permet à Zola sans doute d'aborder une nouvelle méthode d'écriture, de marquer son intérêt pour le document et l'utilisation de documents empruntés à la réalité et qui vont devenir romans, d'un intérêt pour des cas sociaux, des cas psychologiques que l'on va retrouver aussi, et puis un engagement politique, même s'il n'est pas encore très marqué ici et qui va se développer par la suite. Donc je crois que, encore une fois, merci à Alain Pagès, Olivier Lombroso, parce que ce roman est une frontière que Zola est en train de franchir, celle qui va l'amener dans le pays du roman naturaliste.